La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
1547. Rapidement, salutations à la communauté italienne de Québec. Vous menez 3-0 contre la Suisse.
La 90e minute, donc ça achève.
Il met l'hymne national.
C'est au début, Jean, voyons-nous!
Alors, j'aime ça donner le score un peu. Ça fait du bien de voir ces images-là de but, parce que j'aurais pas dû faire ça, mais mon réflexe journalistique, j'ai été voir le joueur qui a fait une crise cardiaque, je voulais voir ce qui s'était passé en plein match.
Christian Eriksen.
Les hommes sensibles, allez pas voir ça, c'est pas beau.
C'est pas le fun à voir.
Non. Et on rejoint Pierre-Yves McSween dans l'instant. Es-tu un fan de soccer, Pierre-Yves?
Moi, j'ai eu longtemps soccer.
Ah ouais?
J'avais pas le talent, disons, de Ronaldo. T'sais.
OK. Il y en a en masse qui n'ont pas son talent. Je trouve que tu...
Oui, mais Ronaldo...
Je me suis rendu à Bantam, là, puis un moment donné, j'avais le choix entre travailler ou jouer au soccer. Tu sais.
Mais Ronaldo, peut-être pas ton talent en finance ou en chiffres.
Oui, c'est dur. En tout cas, c'est dur à côté. Genre, c'est dur à être pire que mon talent de soccer. Tu sais, j'étais un travaillant d'un coin. J'étais comme un Steve Bégin du soccer. Je travaillais fort pour atteindre le niveau.
La face dans la bande, là.
Il n'y a pas de bande.
Moi, je mangeais le ballon d'en face, là, en compensation. Mais il y a aussi au soccer, puisqu'on parle jamais, c'est le développement corporel. Moi, je me suis présenté aux essais de mon école secondaire en secondaire 3.
Ouais.
Mais moi, j'ai poussé en secondaire 3 puis secondaire 5. Puis, quand je suis arrivé au camp d'entraînement, j'ai eu un choc de la puissance corporelle. C'est que les gars, c'est des hommes. Puis moi, j'avais encore ma shape de secondaire 1 en secondaire 3. Tu comprends? Fait que je plaçais bien le ballon, mais ça manquait de puissance.
Mais il reste que... d'ailleurs, on le voit aux hymnes nationaux, c'est spectaculaire. Le soccer, tu peux être très petit, là. Tu peux être un Lionel Messi, Maradona.
Ouais, mais ça prend des bonnes jambes.
Ouais, mais tu vois au soccer régulièrement, et là, j'exagère pas, là. Dans la même équipe, prenez Kanté, le français, ou le joueur italien, là, tantôt. T'as des joueurs qui ont une tête et plus grand que leur coéquipier. Tu sais, quand ils se prennent par les épaules pour l'hymne national, il y a de bonnes différences. Mais quand ton centre de gravité est bas, c'est un avantage parfois au soccer.
Quand t'accélères. Mais en même temps, quand t'es grand, tu peux faire une tête. Ouais. Karen va te le dire.
Oui, Karen.
Les mollets des joueurs de soccer, c'est quand même quelque chose.
Karen?
Écoute, pour moi, le soccer, ça, puis regarder un mur blanc, puis arrive, ça m'a
Moi, ce que je trouve juste, c'est que tu t'es accroches, puis ils se mettent à faker. Et ça me fatigue vraiment.
Mais les meilleurs mollets, c'est ceux des cyclistes et des gardiens de but au hockey.
Ah! Tu vois, je savais pas ça. C'est sûr que les gardiens de but ont des pads, là.
Ben, c'est un ancien gardien de but. Là, il prêche pas ça pour
c'est un cycliste?
Non, ça, non. Non.
Okay. On va parler. On vient juste de terminer une entrevue avec Sylvain Charlebois qui nous dit que le prix du poulet risque d'augmenter. On a jasé du conflit chez Excel d'Arp. Toi, tu vas nous parler d'une autre augmentation, mais le bois. Ça en finit plus, les augmentations.
Ah, mais là, c'est de Charlebois, hein, du poulet, de Charlebois au bois. Donc, je te parle du prix du bois. Et là, c'est parce qu'il y a un article aujourd'hui dans le Wall Street Journal, puis il y a François Normand, du Journal des affaires, on a reparlé. Puis il dit, écoutez, en un mois aux États-Unis, le prix de la mesure, là, le 1000 pieds planches, a baissé de 41%, ce qui va avoir une répercussion à la baisse dans le bois d'œuvre. Et donc, le 2 par 4 va baisser. Puis d'ailleurs, quelqu'un que connaît, qui travaille chez Cogeco dans une autre région, qui est Mathieu Loca, a beaucoup d'immeubles à revenus. Puis il a témoigné avec Patrick Lagacé tantôt et je lui ai parlé. Lui, dans le fond, son prix du bois en trois semaines a baissé de 17,5%. Là, c'est juste un début, là. Mais juste pour te dire que son 2 par 6 qui payait, 2 par 6 par 10 qui paye 20$, ben, il vient de le payer tantôt à 16,49$. Ben, donc, ça n'a de rien, 3,5$, mais c'est 17,5%. Et Sylvain, pourquoi c'est excitant? C'est pas parce que je veux te parler du prix du 2 par 4. Parce qu'entre toi et moi, il y a bien du monde qui n'en a rien à foutre. Mais si je parle de maison.
Ben oui. Whoop, c'est ça.
Là, regarde bien ça. Depuis
de patio
une de
à
mois, de
cabanon, là, on s'aperçoit que ça a des impacts. Là.
Ah, il n'y a pas rien que ça, Sylvain. Depuis une couple de mois, il y en a qui signent des contrats de maison. Puis là, ils viennent pour acheter la maison. Puis là, le contracteur leur dit, excuse-moi, ça va être 10 000 de plus ta maison. Ça va être 15 000 de plus. Ça, les matériaux. Hein, les matériaux, ça augmente. Là, on est obligé de payer. Fait que tu vas me payer 15 000 de plus sur un contrat que tu avais déjà signé. Là, qui avait un prix dessus final bâton. Mais avec une clause d'augmentation de matériaux. Si tu ne me payes pas 15 000 de plus, je ne livre pas ta maison. Donc, les gens payent plus. Mais là, Sylvain, c'est là que ça devient intéressant. Et là, écoute-moi bien. Là, c'est les écritures comptables. Tu comprends? Parce que là, le contracteur, il arrive, il va te dire, à l'automne prochain, les matériaux m'ont coûté plus cher. Ah oui, t'as acheté les matériaux quand? Il peut te présenter un coût de revient comme il veut. Mais là, qu'est-ce qui va te prouver que les factures qu'il te présenterait d'achat de matériaux, c'est tes achats de matériaux à toi? Qu'est-ce qui te prouve que les documents qui supportent la hausse des matériaux, c'est ta maison à toi? Qu'est-ce qui te dit que les matériaux, ils ont vraiment acheté 3 mois avant la construction de ta maison ou une semaine ou 2 jours avant? Qu'est-ce qui te dit qu'ils n'avaient pas pris un contrat pour se couvrir contre la hausse des matériaux? Qu'est-ce qui te dit? Dans le fond, il va y avoir un jeu de crayon très important si les coûts des matériaux se mettent à baisser d'ici l'automne.
Donc, faut être très vigilant. C'est ça que tu nous dis.
Bien, j'ai envie de te dire que quand ton contracteur te fait signer un contrat, c'est sûr que c'est dur de négocier parce que des fois, ça dépend comment tu achètes ta maison. Des fois, tu t'en vas dans un nouveau développement. Il y a quelqu'un qui a acheté tous les lots de terrain. C'est un unique contracteur. Tu as 3 modèles de maison, puis let's go, puis les prix, c'est ça. Puis si t'es pas content, tu l'achètes pas. Mais quand on va venir te dire, hey, faut que tu payes plus cher parce que ça a coûté plus cher les matériaux,
là,
prouve-moi-le, explique-moi-le, puis. Quand vous signez un contrat aujourd'hui là, pour une maison, regardez bien cette clause-là, le coût des matériaux. C'est drôle, hein? Quand le coût des matériaux va augmenter, il va augmenter ta maison. Mais si le coût des matériaux chute, est-ce qu'il va baisser le prix de ta maison?
Ah, intéressant ça.
Ouais. On jase.
Ouais.
Ça, c'est Moi, je pense que non. Je pense que si tu signes à 385 000 pour ton immeuble,
trop tard.
Puis à la fin, finalement, il y a eu un 10 % ou 15 % ou 30 % de moins cher sur les matériaux parce que les matériaux auraient recommencé à baisser parce que pas de pénurie autant à l'automne. Oublie ça, il ne transférera pas la facture.
Ben, c'est ça, faut pas qu'il t'en charge plus si ça coûte plus.
Non, exact. Ça. Mais là, on parle, écoute, la baisse aux États-Unis, le temps que ça se répercute au détail.
On verra.
Au Canada, puis dans les quincailleries, ce ne sera pas tout de suite. Mais juste te dire que on a vécu quelque chose de spécial.
Ouais.
Tu sais, quand tu étais rendu à payer un 2 par 4, 10 puis 11 piastres,
voilà.
Moi, quand j'ai rénové ici, là, ça m'a coûté 2,34. Tu sais, le 2 par 4. Puis, ça a l'air de rien, le 2 par 4. Tu sais, 2,34, 10 piastres, on s'en fout. Ça n'en prend les 2 par 4 d'une rénovation.
Oui. Oui. Alors, bonne nouvelle pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Tu veux me parler un peu de David City, une entreprise québécoise qu'on a suivie un peu, qui a connu un départ fulgurant. Et ensuite, tu nous parlais souvent de certaines difficultés, là.
Puis là, j'en ai parlé souvent parce que c'est un modèle d'entreprise qui s'en va en bourse rapidement.
Ouais.
Commerce de détail, centre commercial, des centaines. Je pense qu'il y avait plus de 240 ou 250 boutiques. Puis, tu sais, c'était, on te vend du thé comme on te vend des bijoux, là, mais ça demeure du thé. Puis contrairement au café, comme je dis souvent, il n'y a pas une valeur ajoutée d'une machine à 25 000 qui fait le barista, puis que le lait fouetté, puis tout ça. T'es pas prêt à payer la même 5 piastres pour un thé pour emporter. Puis t'as pas la même logique de l'achat du thé en gros ou du café en gros. Et donc, le modèle s'était planté, mais solidement. L'action en bourse n'avait jamais réatteint les sommets d'avant. Puis là, il y a eu la pandémie. Il y a eu une restructuration et David City est allé exactement dans ce qu'on avait dit qu'il aurait dû faire dès le départ, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle des flagships, donc 18 points de vente, on s'entend, là, t'es loin de 240 ou 250, dans des centres bien en vue et t'as rationalisé le reste, t'as fait un write-off l'année passée sur tes beaux. Et tu te retrouves qu'avec le titre boursier a repris du poil la bête.
Il leur
370% de rendement depuis un an, 117 depuis le 1er janvier.
Mais là, ils ont plus que 18 points de vente au lieu de 250.
Oui, mais là, attends, point de vente à eux, c'est-à-dire qu'ils écrivent David City. Mais là, ils ont fait ce que je disais à Paul Arcand au début. Je dis, du thé, ça se vend en épicerie, là. Ça se vend en pharmacie, puis ça se vend dans des points de vente que tu payes pas.
Ouais, au lieu d'avoir ta boutique, là.
Ben oui.
Mais ça, c'est les étagères.
Ils ont commencé
partout.
À faire ça.
Ils ont commencé comme si c'était des Starbucks. Puis là, un moment donné, il aurait dû regarder Starbucks qui a dit, nous autres, on fait Tevana. Puis Starbucks, un moment donné, ils ont fait, hey, ils savaient quoi, là? Les Américains sont juste pas prêts à boire autant de thé qu'ils boivent de café. Fait que on va fermer ça, on va regarder les Tevana, on va faire un gros write-off dans les états financiers, on va radier ça, puis on va mettre Tevana en option chez Starbucks. Ceux qui voudront du thé, y en auront. Tu comprends? Chez David City, on était partis en peur. L'action était à 27$, mais rendu à 5$ quand même. Mais au départ, c'était très élevé. Puis on avait vu ça de même. Là. C'est comme si on pouvait dupliquer le modèle de Starbucks. Mais c'est pas la même affaire. Tu sais, il y a pas le même...
Engouement,
niveau de complexité puis d'engouement. Quand tu regardes un café latin puis quand tu regardes un thé que tu as laissé à la poche dedans pendant 2 minutes, c'est pas une affaire. Puis la personne, elle se dit, hey, tant qu'elle a payé 5$, je vais acheter le paquet de poche de thé puis je vais en mettre moi-même dans une tasse chauffée au bureau. Le goût sera même pas différent. Tandis que quand t'as une cafetière italienne branchée sur le 240 volts, tu comprends qu'on est ailleurs, là.
Mais là, j'aime ça parce qu'ils ont monnayé, puis ça, c'est t'en parles, puis d'autres experts aussi le disent. Il leur restait de quoi? leur nom. David Stees, malgré tout ça, là, le nom était ancré. Mettons, c'est à l'épicerie ou pharmacie, puis je vais acheter un thé, David Stees, je sais quoi. Fait que là, en partant, je suis peut-être plus porté à aller là vers une marque que je connais pas. Et ça, ils l'ont bien joué. Là, oui, restait ça, là. Tu peux le garder.
C'est comme le Camellia Sinensis, tu connais-tu?
Non.
Camellia Sinensis, c'est un petite boutique de thé, tu sais, qui en a pas beaucoup, mais qui avait déjà le modèle de, on va avoir des boutiques phares, puis traite des salons de thé, mais surtout, on va se vendre en épicerie, on va se vendre dans les restaurants, on va se distribuer autrement. Parce que le consommateur qui achète du thé, là, il va pas tous les jours. Je compare souvent avec l'huile d'olive, Sylvain. Ouais. Tu sais, tu t'achètes un pot d'huile d'olive, puis tu le passes, puis tu en achètes un autre. Là, tu regardes à l'épicerie, bon. C'est bien rare que tu t'en vas dans un magasin spécialisé en huile d'olive, puis tu payes le pied carré. Fait qu'imagine-toi payer des emplois au salaire minimum, malgré tout, mais toute la journée... pour vendre du thé un peu, mais pas tant. Puis le gars qui est venu le matin, tu sais, il va venir, mais il ne reviendra pas avant 3 mois. Puis là, il y avait un système de points complètement fou. Tu accumulais des points, puis là, c'était payant, mais si tu ne retournais pas avant tant de jours ou tant de semaines, ouais, tes points, ils disparaissaient. Fait que c'était comme un peu n'importe quoi. Fait que c'était compliqué. J'avais demandé à analyser dans une chronique à Radio-Canada il y a plusieurs années le système de points. Puis il a fallu que j'analyse le système de points tellement qu'il était complexe. Tu sais, quand le consommateur, comprendre son système de points, il doit faire une analyse financière, il y a un problème. Les points, c'est supposé être simple.
Les petits stickers de Subway, là, entre autres, là, je ne sais pas si vous en
souvenez. Ah, ça, c'est
carte,
bon, hein?
De la carte, mais c'était simple. Là. Petit sticker, tu mets ça sur ta carte, tu as un sous-marin gratuit, un money, that's it, that's all.
Hey, tu sais,
il faut que ça soit simple.
Subway, à l'époque, là, une franchise, là, quand c'est arrivé au Québec, dans les années, ça doit être dans les années 90, on disait qu'une franchise, c'était une coupe de mille. Tu sais, c'était un petit local. Tu marquais Subway dessus, puis tu te lançais, puis tu faisais des 12 pouces réchauffés dans le micro-ondes. C'était simple, la vie, Sylvain.
Ouais.
Puis là, après ça, c'est devenu des méga franchises. Il y en a eu partout, puis ça a perdu un peu du lustre qu'il y avait à l'époque. Il y a eu de la concurrence, du plus frais. On s'est rendu compte que le pain goûtait spécial parce qu'il était composé différemment pour qu'il lève vite. Mais peu importe. Ça, le système de points, c'est... t'achètes un 12 pouces, t'as 2 stickers, t'achètes un 6 pouces, t'as 1 sticker. Puis au bout de 12 stickers, t'avais un 12 pouces gratuit. Il y avait une logique derrière. Puis Sylvain, as-tu remarqué qu'à ton adolescence, t'étais capable d'en empiffrer un bien plus qu'aujourd'hui?
Ah oui, je sais, à ce temps, j'en prends un demi, puis dans ce temps-là.
Moi, je prenais un 12 pouces double steak.
Ah oui,
puis je t'enfilais ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça, c'est quand j'essayais de faire les essais de soccer, s'il n'y arrivait pas.
C'est ça, tu peux même pas courir vite.
Non,
c'était le poulet teriyaki. J'espère que c'est du poulet. Tu sais qu'il y a une poursuite là-dessus aussi. Il y en a qui disent que c'est pas du poulet.
Ben, je vais confirmer que je suis allé me prendre une salade au poulet teriyaki chez Subway, OK?
Ouais.
C'est sûr que c'est du poulet compressé bizarre. Ça ressemble pas à du vrai poulet comme. Tu sais, c'est pas du poulet comme. Ben, tu prends une poitrine de poulet, ta coupe en lanière.
Ah ouais,
c'est comme.
Il
n'y
a pas de filament de poulet.
Mais c'est devant les tribunaux, ça.
Parce que tu sais, moi, si tu me dis que c'est du vrai poulet, là, t'as raison, là, c'est du poulet que tu me coupes en morceaux. Mais si c'est du vrai poulet, c'est pas genre, on a pris des restants de poulet, on les a réassemblés, puis on dit que c'est du vrai poulet. Oui, mais c'est quand même l'espèce de poulet pressé. Tu sais, le débat sur les croquettes de McDo a eu lieu longtemps aussi. Puis un vrai morceau de poulet, c'est un vrai morceau de poulet, mais bon, je vais pas me faire poursuivre par ça bruit, là, on s'entend.
Mais ils sont déjà en cours.
Ils sont déjà en cours, puis là, ils vont déjà m'appeler. Fait que Sylvain va juste te dire que moi, un morceau de poulet, pour moi, dans ma définition, c'est un poulet que tu tranches, puis tu le prends tel quel. Tu le passes pas d'une machine pour faire du poulet recomposé en cube. Voilà.
Ouais, merci Pierre-Yves. Merci.
Salut.
À 17h. On s'en va à la pause. Hey, ça m'a donné le goût. Moi, 17h, quand on parle de sujet pouf, j'ai de la misère. Comme là, j'en prendrais un, ça bruit, là. Tu sais?
Il en reste un bout dans la poubelle.
Il a aussi parlé de croquettes de poulet, là. Je prendrais tellement 6 croquettes sauce aigre douce.
Non.
Là, quoi?
Sauce barbecue, pas aigre douce.
Les deux, moi. Autant je suis un fidèle en termes de bouffe, pour les croquettes, je mélange. Des fois barbecue,
ouais, t'es aux deux.
Des fois aigre douce. J'aime ça mélanger parce que c'est quoi l'autre aussi? Je la prends jamais, par contre. Attention.
Ail et miel?
Jamais. C'est quoi la troisième?
Ben, je sais pas. Je savais pas qu'il y en avait une troisième. Là.
Oui. Je pense qu'il y a 3 choix sur les croquettes. Mais je suis toujours
barbecue,
pas...
barbecue, ouais. Aigre douce, puis c'est pas ail et miel?
Je pense que c'est ça. Mais moi, j'aime pas le miel. Fait que zéro, là. Mais aigre douce, non?
Ah, c'est épouvantable. Mais je préfère manger mes croquettes pleines, sèches. Aucun problème.
Ah non, ça, je suis pas capable.
Frette même.
Ah, sec, c'est pas bon. Ça prend. Ça fait partie des affaires que.
Dijon et miel.
Ouais, c'est ça. Faudrait peut-être que je l'essaye. Peut-être un jour comme ça. Mais, Subway, ouais, les croquettes de McDo, ça a l'air. Quelqu'un m'a déjà dit que quand ils bâtissent ou quand ils font, là, c'est comme rose.
Ben, du poulet, c'est rose.
Non, mais ça sort d'un. Ça sort comme. J'avais vu une vidéo sur Internet.
Oui,
as-tu
moi aussi,
vu ça?
Je l'ai
tu l'as vu, celui-là?
Oui.
Je sais pas si c'est vrai, ça. C'est peut-être pas vrai, là. On met ça.
Je sais pas, mais c'est bon. Hein? C'est bon. Moi, quand j'ai besoin de réconfort, c'est 6 croquettes avec de la sauce barbecue.
Ouais.
Puis une orangeade.
Ça ou les filets de poulet aussi sont bons. Il n'y en a pas chez McDo. Les filets de poulet, moi, je trouve ça excellent. Qu'importe la rôtisserie, là, partout, là, je prends souvent ça.
Je prends tout le temps ça.
Des filets de poulet?
Ça a été mon souper de fête.
Des filets de poulet?
Oui, 3 filets de poulet chez Saint-Hubert.
Ah non, moi, j'adore. Ouais, mais ils sont bons. Ils sont vraiment, vraiment excellents.
Je suis une enfant, là. Moi, si tu veux me faire plaisir, tu m'amènes au glissade d'eau puis tu me donnes des croquettes ou des filets de poulet. Je te le dis, j'ai 8 ans.